With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du FC Stream Team. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et je suis ravi de vous retrouver sans Martin Motsnier, sans Maxime Dupuis qui prennent un repos bien mérité, mais pour m'accompagner ce vendredi, j'ai un poids lourd à mes côtés. Il navigue avec une facilité déconcertante sur l'autoroute de l'actu à la manière d'un Marc Marquez dans les virages. Il analyse les infos aussi bien que Lewis Hamilton gère ses trajectoires. Il distribue les sourires comme Raikkonen distille ses regards noirs. Mais surtout, contrairement à Nikita Mazepin, il a promis d'aller au bout de cette émission. Comment ça va, Julien Pereira ?
Écoute, ça va beaucoup. Ça va très bien, merci. C'était plutôt flatteur au début.
Ça termine bizarrement. Non, mais justement, tu évites de terminer dans le bac à gravier comme le vilain garçon du monde de la F1. Évidemment, on va parler football dans ce FC Stream Team avec la grosse actualité de la semaine. Julien, en premier sujet, on reviendra sur la création de la bête et du monstre Super League, une création qui n'aura duré que 48 heures. Mais la question, elle est toute simple, Julien. Est-ce que la Super League est vraiment morte ? On reviendra en détail sur ce sujet.
On reviendra en détail aussi sur ce qui se passe à Bordeaux. Vous le savez maintenant, King Street, l'actionnaire majoritaire des Girondins, s'est retiré jeudi soir. Quel avenir pour Bordeaux ? Est-ce que le club risque la faillite ? On va en parler avec un spécialiste qui sera avec nous dans la deuxième partie.
Et on terminera évidemment avec un sujet made in Ligue 1, la course pour le titre avec ce choc entre Lille et Lyon ce dimanche. À cet égard, on s'est intéressé à une question très simple. Qui est finalement la meilleure recrue de Ligue 1 ? Yilmaz, Paqueta, Moiskin, Voland. On débattra de tout ça et on essaiera de trouver une réponse très clair. Voilà, Julien, pour le sommaire. Si vous nous écoutez en podcast, n'oubliez pas de nous noter, n'oubliez pas de nous relayer, n'oubliez pas de commenter. Le FC Stream Team est disponible chaque semaine sur toutes les bonnes plateformes d'écoute. Et si vous préférez la vidéo, il suffit de vous rendre sur eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Julien, on a fait le tour. Passons au premier sujet.
Passons au premier sujet avec la Super League, évidemment, avec une information qui est plutôt récente. Puisqu'aujourd'hui, on attendait les sanctions de l'UEFA à l'encontre des clubs qui ont tenté de monter la Super League. Et au final, l'information, c'est que bah, y a pas de nouvelles. L'UEFA a choisi de s'abstenir.
Il est urgent d'attendre pour l'UEFA. Avant de revenir peut-être sur les conséquences que pourrait avoir la création de cette Super League et les éventuelles sanctions qui ont été donc retardées ce vendredi par l'UEFA, peut-être qu'on peut rappeler à ceux qui nous écoutent le déroulé complètement fou qu'on a vécu cette semaine, Julien, concernant la Super League, créée dimanche 18 un peu dans l'ombre, à minuit, avec un communiqué diffusé en pleine nuit. Et à partir de là, on a vécu 48 heures complètement folles.
Ouais, 48 heures complètement folles. Ça a débuté donc avec ce communiqué, tu l'as dit. Puis une réaction assez rapide, finalement, de l'UEFA et d'Alexander Seferin, qui ont évidemment condamné ce projet, cette tentative de mise en place de Super League. Et après, tout s'est enchaîné très, très vite, finalement.
On a eu des menaces aussi de sanctions envers les joueurs, peut-être interdits de sélection, des menaces de sanctions aussi envers les clubs encore engagés en Coupe d'Europe cette saison, que ce soit en C1 ou en C3. Il y a eu la rumeur d'un sacre du PSG sur tapis vert. En parallèle, comme défenseur entre guillemets du projet, on a appris que JP Morgan était disposé à participer au financement de cette Super League. On a eu Florentino Pérez, moteur dans ce projet, qui est venu défendre celui-ci dans l'émission El Chiringuito, avec des arguments difficilement audibles, dans un choix d'émission très particulier. Mais surtout, Julien, et ça aussi, ça a été quand même... La grande info de cette Super League, c'est qu'il y a eu une levée de boucliers absolument partout en Europe, même les entraîneurs concernés, Jürgen Klopp, Pep Guardiola, tout le monde quasiment a pris position contre cette Super League. Ça a continué dans la journée de mardi jusqu'au point de voir les joueurs de Chelsea bloqués par certains supporters dans leur bus. Est-ce que c'est ça qui a tout fait basculer? Je n'en suis pas sûr. Il n'empêche, mardi, on a eu le début d'une vague de désistements sans précédent avec Manchester City en premier lieu et derrière tous les clubs anglais qui ont fini par se retirer un à un.
Ouais, ça a commencé par City, tu l'as dit. Il y a eu Chelsea ensuite, puis Manchester, Arsenal, Tottenham et Liverpool d'un coup dans la soirée de mardi. On suivit ensuite l'Atlético, puis l'Inter, puis le Milan. Et enfin, il restait les trois clubs finalement qui étaient les plus dominants dans ce projet, ouais. Ceux dont on a le plus parlé. Il y a eu la Juventus évidemment, le Barça et le Real. Eux sont un petit peu toujours entre deux eaux finalement parce qu'ils attendent un vote des socios pour savoir quelle sera leur décision sur la Super League. Mais globalement, l'idée est plutôt de dire on se retire parce qu'il faut se retirer. Mais on croit encore au projet.
Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre ces trois-là et les clubs anglais. On a vu des propriétaires anglais s'excuser officiellement face caméra de cette prise de décision, je pense notamment aux propriétaires de Liverpool. À l'inverse, Agnelli, Perez, Bartomeu sont droits dans leur botte. Alors, Laporta sont droits dans leur botte. Justement, Laporta peut se cacher quand même derrière Bartomeu en disant que ce n'est pas lui qui était à l'initiative du projet. Il n'empêche que mercredi soir, il a pris position en confirmant que selon lui, l'idée d'une Super League était plutôt une bonne idée. Agnelli aussi qui était initiateur du projet. On comprend qu'avec ces trois-là, il y a aussi une Sainte Trinité qui veut travailler à ce que le foot tourne définitivement la page du sport et devienne définitivement du divertissement, du spectacle et une industrie à part entière. C'est un mot qu'a très souvent utilisé André Agnelli dans ses interventions et c'est aussi ça qui a été attaqué dans ce projet de Super League. C'est un petit peu oublier l'essence même du sport et du football.
Oui, c'est ça. De toute façon, ils ont la même vision des choses. Eux, ils voient leur club comme des entreprises et non pas comme des clubs de foot finalement. Leur intérêt, c'est de générer plus d'argent, de renflouer les caisses à chaque fois qu'il faut renflouer les caisses. Évidemment, il y a cette crise qui a accéléré les choses. C'est aussi pour ça que tout ça a été aussi vite. Mais globalement, on a quand même le sentiment qu'ils ont toujours cette idée derrière la tête et que cette idée va perdurer, même si la Super League est morte. Il y a quand même une possibilité de revoir ce projet qui va redevenir une espèce de serpent de mer, qu'on reverra peut-être plus tard sous une autre forme. Mais dont l'intérêt, dont le but finalement sera le même.
Oui, je suis d'accord avec toi, Julien. De toute façon, la Super League a vocation à revenir sur le devant de la scène dans les années, dans les mois qui viennent. Rappelons quand même que l'UEFA lundi a voté une nouvelle réforme de la Ligue des Champions pour 2024 qui fait encore la part belle au grand championnat et donc au grand de ces grands championnats. Rappelons aussi que finalement, cet échec-là nous apprend deux choses. Que l'UEFA est trop faible face aux gros clubs. Et d'ailleurs, la décision de ce vendredi d'attendre pour sanctionner éventuellement les mutins prouve que l'UEFA n'est plus aussi puissante qu'il y a quelques années et qu'elle s'est laissée grignoter son pouvoir d'influence par les gros clubs qui deviennent de fait beaucoup plus importants que l'instance européenne en tant que telle. Mais elle nous apprend aussi que ces gros clubs-là, en voulant mettre un petit peu la charrue avant les bœufs, se sont rendus compte qu'ils n'étaient pas aussi puissants qu'ils le pensaient. C'est-à-dire que quand ils ont pensé Super League, ils ont pensé global, ils ont pensé international, ils ont pensé on va vendre des maillots en Chine, on va être diffusé aux quatre coins du monde. Mais ils ont fait ça en se coupant de ce qu'est au départ un club, à savoir une association de joueurs, de supporters, et donc en se coupant de leur identité. Et ça, je trouve que c'est une notion qu'il faut qu'on ait tous en tête dans les semaines qui viennent et que les grands clubs ont peut-être réappris à l'occasion de cette crise. On ne peut rien faire sans les supporters et on ne peut rien faire en maltraitant l'ADN historique de ces associations qui sont centenaires pour la plupart.
Oui, et puis tu parlais de l'influence de l'UEFA, on peut aussi parler de l'influence de la FIFA. Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui publiquement a dit qu'il était totalement contre la Super League. Et en fait, on est en train de se rendre compte que, officieusement, il aurait plutôt été de l'autre côté, dans l'autre camp. Pour revenir sur ce que tu disais sur la Ligue des Champions qui va voir le jour d'ici 2024, Il faut bien, on l'a dit, on l'a répété, on l'a écrit même sur Eurosport, vous pouvez retrouver quelques articles qui en parlent. Cette Ligue des Champions, cette future Ligue des Champions, elle répond aux intérêts de ces 12 clubs-là, finalement. Ouais. Elle va générer plus d'argent, elle doit mettre plus d'argent dans les caisses de ces grands clubs, elle doit rendre la compétition plus inégalitaire, finalement. Elle doit tuer aussi cette petite part de foot. Le seul problème, c'est que ces clubs-là ont besoin d'argent tout de suite. Pérez, ça ne l'a même pas caché dans ses interventions, il le dit. Si on ne fait rien, on va droit dans le mur. Mais s'ils vont droit dans le mur, ce n'est pas de la faute de l'UEFA, ce n'est pas de la faute de Ligue des Champions, c'est de leur faute à eux. Et moi, mon inquiétude, c'est qu'ils aient tenté de faire passer cette idée-là par la force, finalement, et que finalement, ce projet-là soit que la première pierre, qu'on se dirige vers la Ligue des Champions, qui sera finalement une sorte de Super Ligue déguisée, on va dire, même si ce ne sera pas un projet aussi radical que celui qu'on a vu cette semaine. Et donc, j'ai peur qu'on se dise qu'on y aille plus doucement, finalement, mais qu'on finisse à terme par arriver à une Super League qui sera peut-être pas avec 12 clubs, ça sera peut-être avec 15, mais le principe sera le même. L'idée, maintenant, ça va être pour eux, en tout cas, de faire accepter l'idée petit à petit. Ils ont montré qu'ils en étaient capables, ils ont montré qu'ils étaient capables d'aller très loin. Ils ont vu que l'UEFA n'était pas capable d'apporter une réponse et de s'opposer au projet. Moi, j'ai peur que maintenant, ils aillent au bout et qu'ils prennent plus de temps pour pouvoir mener ce projet jusqu'au bout d'ici quelques années.
Ce qui est intéressant sur l'UEFA face à cette menace-là, c'est Bloomberg qui révélait ça au début de semaine, confirmé par RMC par la suite, c'est que l'UEFA, pour répondre au projet de Super League, s'était rapproché d'un fonds d'investissement britannique pour gonfler les revenus de sa compétition et pour continuer de faire complètement monter la note et donc augmenter encore in fine les revenus des plus gros. Si la seule réponse de l'UEFA qu'elle peut donner, c'est uniquement une réponse économique, finalement, la Super League est morte, mais ils ont eu ce qu'ils voulaient, ces clubs-là. C'est-à-dire qu'ils vont récupérer encore plus d'argent du gros gâteau que représente la Ligue des Champions. Donc oui, la Super League est morte, peut-être sur le papier, peut-être officiellement. Elle a été aussi bien tué par l'amateurisme des dirigeants qui ont mené ce projet, parce que c'est un projet qu'on ne mène pas en 48 heures, qu'on ne fait pas comme ça, un peu sur un coin de la table. Et je vous conseille d'aller lire un des articles de As ou de Marca, je ne sais plus, qui retrace la genèse du projet. Ça s'est fait en une semaine, grosso modo. Et d'ailleurs, voilà, si vous écoutez Paolo Maldini qui vous dit « moi, je n'étais pas au courant », alors qu'il a un rôle très important à l'AC Milan, ça vous prouve à quel point ils ont pris un peu cette décision à la va-vite, pour mettre un maximum de pression sur l'UEFA. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, mais moi, j'ai beaucoup de mal à croire que ce soit uniquement l'opinion publique et quelques manifestants supporters courageux qui arrêtent un bus à Chelsea qui entraînent un tel retrait. C'était plus ou moins calculé. Dans la politique, il y a quelque chose qu'on appelle un ballon d'essai. Ça ressemble exactement à ça. On a essayé de voir. On a vu que pour l'instant, peut-être que les supporters historiques n'étaient pas complètement disposés à aller dans ce sens-là. Il n'empêche qu'on continue de grappiller du terrain et que la Super League, ne rêvons pas, on y arrive pas à pas.
Cyril, je crois qu'on a fait le tour de cette question Super League et de son avenir. On va pouvoir parler d'un autre fiasco financier, finalement, celui des Girondins de Bordeaux, puisque King Street, l'actionnaire majoritaire, s'est retiré jeudi des Girondins de Bordeaux.
Dans la FC Stream Team, ce vendredi, on voulait revenir sur l'actualité brûlante qui a frappé un club historique de Ligue 1. C'est évidemment le retrait de King Street des Girondins de Bordeaux. Pour en parler, on accueille Nicolas Pietrelli, responsable de Web Girondins, un super site. Allez les suivre si vous suivez les Girondins. Nicolas, on vient de voir, parce que la soirée de jeudi a été éprouvante pour beaucoup de supporters bordelais. Certains s'y attendaient. Est-ce que peut-être, avant de commencer, tu peux nous rappeler brièvement ce qui s'est passé depuis le 27 juillet 2018 et la vente de M6 à des fonds d'investissement américains?
Salut Cyril, salut à tous. Oui, alors il faudrait même, je pense, remonter, puisque si tu veux, c'est l'enchaînement de mauvaises décisions qui ont été prises depuis des années, et je pense même avant 2015 et l'entrée dans ce nouveau stade. Ouais. Il faut savoir que M6, pour remettre dans le contexte, souhaitait se séparer du club depuis des années. Ils n'ont réussi à le faire que ce mois d'octobre 2018. Mais avant ça, Nicolas de Taverneau, il a cherché des solutions. Il a essayé de valoriser le club comme il le pouvait. Mais l'entrée dans le stade, pour moi, marque un tournant. Pourquoi ? Parce qu'en 2015, donc, Bordeaux et la commune de Bordeaux et les Girondins de Bordeaux décident de construire un nouveau stade et entrent dans ce nouveau stade. Et ça amène une charge supplémentaire d'environ d'un peu moins de 4 millions d'euros par an, par saison, pour le club des Girondins de Bordeaux. Et pour moi, là, il y a une bascule, parce que ces 4 millions d'euros-là, si on analyse tous les mercatos, à part le mercato de l'été 2017, on voit que c'est une somme qui n'est plus investie dans le sportif. Et à partir de là, on voit que l'effectif perd en qualité d'année après année. M6 trouve, avec Joe Da Grossa et son fonds d'investissement GACP, plus King Street, deux pigeons. Bon.
Deux investisseurs, on va les appeler comme
deux
ça.
Deux investisseurs pour mettre 100 millions d'euros environ pour acheter le club des Girondins de Bordeaux. Et il faut savoir qu'à l'époque, en 1999, M6 a racheté le club pour 1 euro symbolique. Voilà, je dis juste ça. Vous en tirez les conclusions. Donc, à partir de ce mois d'octobre 2018, donc il y a une nouvelle présidence qui arrive. Stéphane Martin passe le relais, qui était le dernier président des Girondins de Bordeaux, qui était un profil de banquier qui était là depuis quelques années, qui avait remplacé Jean-Louis Triaud pour passer la main, et pour faire cette vente qui est faite. À partir de là, donc en octobre 2018, GACP et King Street sont propriétaires du club. Petite précision, King Street a environ 80% du capital, GACP environ 20%, un peu moins.
Et c'est GACP à ce moment-là qui gère le sportif, c'est ça?
C'est exactement ça. C'est-à-dire que King Street, qui est actionnaire majoritaire des Girondins de Bordeaux, délègue la gestion du club à GACP, Joe Da Grossa, Hugo Varela, Eduardo Macia. Et c'est eux, c'est cette équipe-là qui met en place donc le projet sportif, le recrutement, avec l'arrivée de Paolo Souza. Et Frédéric Longuepé, le président actuel des Girondins de Bordeaux, est déjà président des Girondins à cette période. C'est-à-dire que sous l'ère américaine, des Américains, on a connu un seul président, c'est Frédéric Longuepé.
Ouais.
Et à partir de là, donc il y a un enchaînement, en fait, tout déraille. Tout déraille parce qu'il y a des différents. Donc, on a Poyette, l'été 2018, qui est remplacé avec un intérim de Ricardo. Ricardo, ça se passe mal, il fait la fin de l'année 2018, début 2019, il est remplacé au mois de février-mars par Paolo Souza. Paolo Souza arrive, il y a des recrutements, il y a une augmentation de la masse salariale de plus de 11 millions d'euros par GACP. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Bordeaux était un club qui avait un déficit chronique, je dis déficit grosso modo, mais depuis 10 ans, depuis la prétite de 2009, de plus de 10 millions d'euros chaque année. Hein. Voilà.
C'est des déficits structurels que beaucoup, beaucoup de clubs de Ligue 1 ont finalement.
Exactement, exactement. Mais la particularité, c'est qu'ils délaissent un peu le sportif depuis des années et c'est accentué sous l'ère des Américains avec des recrutements de joueurs libres, pas forcément en lien avec le projet sportif que voulait instaurer Paulo Souza. Parce que Paulo Souza, même s'il a ses détracteurs, il avait voulu mettre une identité sportive dans le jeu des Girondins de Bordeaux. Mais ça passe au second plan. Et même s'il y a des recrutements à l'été 2019, avec beaucoup de joueurs qui arrivent, hein, Benito, Mecher, Koscielny, ils essayent de renouveler. Il y a Adli qui est pris l'été, lors de l'hiver, pardon, Yacine Adli qui est pris lors de l'hiver 2019. Mais ça ne fonctionne pas. Et il y a très vite des tensions. À la fin de l'année 2019, il y a un
passage crack, de témoin,
un passage de témoin, mais bon, des tensions entre King Street et GACP, parce que King Street, finalement, ils s'aperçoivent que GACP font n'importe quoi dans la gestion des Girondins de Bordeaux. Ils dépensent l'argent à tout va. Dans les structures, on place ces hommes, mais finalement, on s'aperçoit que le sportif est là pour faire du business, et pas là pour. C'est pas porteur des Girondins, c'est-à-dire qu'ils se servent des structures du club pour s'enrichir. Voilà. Donc, d'ailleurs, King Street s'en aperçoit et éjecte GACP au mois de décembre 2019. C'est officialisé à la fin du mois. Et King Street est l'actionnaire majoritaire
des Girondins
de Bordeaux.
Et M. Longuepé reste en place. De là, Nicolas, on a l'impression que depuis, chaque nouvelle annonce a fait l'effet d'une déflagration. Le plus symbolique, c'est peut-être cette histoire de logo, évidemment, en juin 2020, où quasiment aucun supporter n'était pour ce nouveau logo. Et donc, ce 22 avril, le retrait de King Street. Est-ce que finalement, on ne le voyait pas venir, entre guillemets, cette volonté de se retirer à court ou moyen terme? On rappelle que King Street, et de manière très cynique, quand ils sont arrivés en 2018, ils avaient annoncé vouloir être là pour 5 à 10 ans. Ils n'ont même pas tenu 3 ans.
Oui, même encore, hein, le président Longuepé a déclaré qu'ils avaient un projet de retour à l'équilibre financier en 2023. Il déclarait ça il y a quelques semaines. Il faut dire que dès cette fin d'année 2019, il y a un conflit entre les supporters et Frédéric Longuepé. Les supporters demandent le départ du président, du responsable de la billetterie. Entre décembre 2019 et l'été 2020, toute la direction est changée. Toute la direction, communication, commerciale, Paulo Souza s'en va. Ouais. Il ne reste plus que Frédéric Longuepé. De la première direction qui est en place. Il y a cette opération Nous les Girondins pour initiée par les Ultramarines qui ont été très présents, qui ont alerté avant la vente. Et ils avaient été reçus par Alain Juppé avant la vente du club, hein, lors de l'été 2018 pour alerter. Mais finalement, il y a eu un gros lobbying énorme fait de la part des Américains de GACP. Un lobbying important qui a fait que ça arrivait jusqu'à Alain Juppé quand même. Alain Juppé, c'est une personnalité en France et à Bordeaux. Et ça a fonctionné. Donc, à partir de décembre, il y a cette cassure. Et là, c'est la descente aux enfers avec les supporters qui sont contre cette direction du club, le sportif qui ne fonctionne plus, un entraîneur qui dit « moi, j'ai plus rien à faire aux Girondins de Bordeaux, je m'en vais ». Donc, Paulo Souza part, il recrute donc lors de l'été 2020 Jean-Louis Gasset et Alain Roche, des personnalités bordelaises, parce que Gasset avait été champion de France en 1999 avec Laurent Blanc. Il était l'adjoint de Laurent Blanc. Et Alain Roche a joué, formé au club, a joué au Girondins de Bordeaux. Mais finalement, ils n'ont pas de moyens. Il n'y a pas d'argent pour recruter. Sportivement, les structures du club sont complètement déstabilisées par toute cette instabilité. Hein, que ce soit, il n'y a pas un entraîneur qui fait plus de 18 mois à Bordeaux. C'est impossible. On ne sait plus ce que c'est la stabilité sportive. Et financièrement, ça ne va pas. Il y a des conflits entre le président au départ et la presse, entre le président et les supporters, entre le président et les joueurs. Il symbolise un peu, Frédéric Longuepé, l'échec de ce rachat. Il n'a jamais incarné le club. Ils se sont arrivés un peu à Bordeaux, les Américains, en terrain conquis. On va vous apprendre ce que c'est le sport business. Ouais. En gros, ils sont arrivés en donneurs de leçons. On va vous apprendre comment on gère un foot. On va vous apprendre ce que c'est le football. On va vous faire rêver. On vous balance deux, trois phrases pour vous dire que vous allez jouer la Ligue des Champions dans 3 ans. Et puis finalement, on s'aperçoit de quoi aujourd'hui ? Mais qu'ils quittent le club parce que le club est ruiné, sportivement et financièrement.
Alors justement, ma prochaine question, elle est là, Nicolas. Retraite King Street. Donc, le club a été placé sous la protection du tribunal de commerce. Est-ce que il y a un risque que Bordeaux, club historique de notre championnat, fasse faillite dans les prochains mois?
Alors, le risque, il est là. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'économie, du sport et du football. Par contre, je me suis un peu renseigné. Oui, il y a un risque. Après, il faut savoir que depuis un an, King Street cherche à se séparer du club. Il y a des actionnaires qui se sont déjà manifestés, des investisseurs, pardon, qui se sont manifestés. Bruno Fievé, on a parlé de Pascal Rigaud, ce Bordelais qui a fait fortune avec une chaîne de boulangerie aux États-Unis, qui est associé à Stéphane Martin, ancien président du club, et un richissime investisseur américain dont on ne connaît pas le nom. Bref, il y a plein de noms qui sortent. Aujourd'hui, c'est une procédure qui va durer 2-3 mois. Aujourd'hui, on n'a pas trop d'informations. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a déjà des personnalités qui se sont positionnées, donc que j'ai déjà nommées. Il va falloir que le mandataire qui va être nommé pour gérer le club, hein, à la place de l'équipe dirigeante, hein, il va falloir faire un état de la dette, puisque le club aujourd'hui, il ne vaut plus rien. Ce qu'il vaut, c'est sa dette. Il va falloir connaître la somme qu'il va falloir débourser pour maintenir le club. En Ligue 1, si c'est possible, sachant que sportivement, on n'est pas sauvé. Donc, il va falloir aussi que le club se sauve sportivement. Donc, il va y avoir 2 à 3 mois où les choses vont bouger, où on va apprendre des choses. Il va falloir être patient du côté de Bordeaux parce qu'on risque de lire un peu tout et son contraire. On sait comment ça se passe. Il va y avoir partie de poker menteur aussi entre les acheteurs parce qu'il faut savoir qu'il y a de la concurrence, je pense, pour acheter les Girondins de Bordeaux. Et on peut se douter que compte tenu des difficultés de la situation aujourd'hui avec les droits télé, on ne sait pas quels seront les droits télé.
Tout à fait.
On ne sait pas ce que les clubs vont toucher en droits télé. Le Covid, on ne sait pas, on n'a pas trop de visibilité. On peut penser que la DNCG et la LFP fera tout pour sauver les Girondins de Bordeaux. Voilà, mais déjà, il faut qu'ils se sauvent sportivement. Ça commence avec, il y a ce match face à Lorient. Dimanche, ils sont partis en stage hier, les joueurs.
Ouais, mise au vert, accueillis par Johan Gourcuff, Ce vendredi, mais c'est pareil, c'était la question. Ça arrive dans un moment où sportivement Bordeaux va très mal. On a l'impression que ce qui s'est passé en coulisses se ressent complètement sur le terrain et que bah, cette équipe de Bordeaux, finalement, elle est très très loin d'être sauvée pour l'instant.
Complètement, complètement. Il y avait beaucoup de personnes, supporters, d'observateurs qui militaient pour un changement de staff. On comprend peut-être aujourd'hui pourquoi le staff n'a pas été changé plus tôt, parce qu'ils sont sur une série noire de 8 ou 9 défaites en 12 matchs. Aujourd'hui, on ne voit pas comment on peut gagner un match. Et pourtant, les joueurs vont devoir faire le nécessaire. Et ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que moi, j'ai interrogé des anciens joueurs, des Girondins de Bordeaux. Ils nous disent tous, quand ça ne va pas à la tête du club, automatiquement, quand en haut, ça ne fonctionne pas, les structures ne marchent pas, il y a une répercussion sur le sportif. C'est, en sport, c'est obligatoire, quoi. Il faut vraiment que tout soit aligné de haut en bas pour que ça fonctionne bien sur le terrain. Et aujourd'hui, ça fait 18 mois, voire même 3 ans, même plus, hein, que ça ne fonctionne pas très bien. Et ça se ressent sur le terrain. Donc, ça sera intéressant d'observer comment cette équipe va réagir, parce que maintenant, on ne peut être que derrière les joueurs. Mais aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que contractuellement parlant, les joueurs doivent se dire que leur contrat, ceux qui sont sous contrat jusqu'en 2022 ou 2023, vont certainement voir leur contrat cassé. Donc, au terme des 2-3 mois, soit renouvelé, soit renégocié. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. Est-ce qu'ils vont arriver à inverser la vapeur? Peut-être, on voulait un choc psychologique. Là, ils ont eu un choc psychologique. Je ne sais pas s'il sera positif, mais bon, on aura peut-être un début de réponse dimanche.
Ouais, on a l'impression que ça peut avoir un côté hyper destructeur comme un côté plus positif, parce qu'effectivement, tu l'as dit, les joueurs maintenant vont se poser des questions. Et puis, s'ils se posent des questions et qu'ils voient leur avenir un petit peu incertain, ils vont peut-être se dire, bon, bah, sur le terrain, il faut qu'on fasse les choses pour qu'on puisse s'en sortir, au moins personnellement, aussi collectivement, parce que il n'y a aucun doute sur le fait que beaucoup de joueurs aient un attachement au club quand même. Donc, cette incertitude, on a l'impression, sera une sorte de tout ou rien finalement avec Bordeaux sur cette fin de saison.
Dernière petite question, Nicolas, peut-être d'un point de vue plus supporter. Qu'est-ce que vous attendez d'un éventuel repreneur? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des garanties sportives très solides? Tu as mentionné le nom d'un Américain dont on ne connaît pas encore l'identité. Est-ce que, vu ce qui s'est passé avec les précédents investisseurs américains, un nouvel Américain à la tête de Bordeaux serait accepté, ou il faut que ce soit quelqu'un du cru qui comprenne l'identité bordelaise et qui ne veuille pas faire de Bordeaux une marque de NBA, mais que ça reste un club de football de Ligue 1?
Alors oui, là, on a été échaudé. Hein. Je peux te dire que, alors, il y avait une partie des supporters qui étaient contre la vente au départ, d'autres qui voulaient laisser le crédit du bénéfice du doute, voir ce que ça allait donner. Et là, force est de constater que c'est un échec total. Donc oui, je pense que ça peut être un mal pour un bien, pour recentrer un peu sur l'identité, sur les valeurs du club, familial, local, et ne pas oublier que sans les supporters, ben, y a pas de football. Les joueurs, ils peuvent jouer, mais les supporters, ce sont eux, en regardant les matchs de foot ou en allant assister aux matchs de foot, qui font vivre les joueurs. Hein. C'est grâce à, j'allais dire, notre argent, celle qu'on dépense pour le foot, que les joueurs ont un salaire aujourd'hui. Hein. Sinon, il n'y aurait pas des droits télé élevés, etc. Donc oui, les attentes aujourd'hui, je pense qu'au lendemain de cette annonce, l'attente, c'est de sauver le club. Ouais. On se dit, parce que le pire des scénarios serait que le club ne soit pas sauvé, qu'il n'y ait pas de repreneur, qu'il y ait les reins assez solides pour investir et maintenir le club dans l'élite du sport français. Il y en a il y a même des supporters qui disent, moi, même une descente en Ligue 2, de toute façon, on sera toujours derrière le club. Même en National 3, on sera toujours derrière le club. Moi, je souhaite si possible que le club soit maintenu. Après, il faut voir, parce qu'il va falloir constituer un nouvel effectif capable de jouer quoi, moi, aujourd'hui, si on a une identité bordelaise avec des gens du cru et des valeurs un peu proches des gens humaines. Moi, jouer le maintien, à titre personnel, ça me convient de suivre l'actualité d'un club qui a ces valeurs-là et qui joue le maintien, qui se reconstruit petit à petit. Ça peut être très intéressant et valorisant à suivre.
Bon bah, on suivra ça évidemment de près. Allez suivre aussi tous les futurs rebondissements du dossier sur Web Girondin pour vous tenir informé des dernières infos. Et on surveillera ça aussi de très très près sur Eurosport et dans le FC Stream Team. Merci beaucoup Nicolas. Et nous, Julien, on va enchaîner, on va rester sur le thème de la Ligue 1, mais on va parler des meilleurs recrues de cette saison 2020-2021.
Oui, Cyril, parce que ce week-end, il y a un choc dimanche entre Lyon et Lille, un choc qui sera évidemment capital pour la course au titre, un choc entre deux équipes aussi qui sont portées par des recrues. estivales qui font partie des meilleures recrues de Ligue 1. Alors, on a sélectionné 4 joueurs pour répondre à cette question. Et c'est évidemment pas un hasard, ces 4 joueurs jouent dans les 4 clubs qui disputent le titre cette saison. Moïse Kean, Burak Yılmaz, Kevin Volland et Lucas Paqueta. On va essayer de faire le tri parmi ces 4 joueurs pour désigner et savoir qui est la meilleure recrue de cette saison 2020-2021.
On a dû un peu procéder par élimination pour répondre à cette question. Celui qui semble un petit peu en retrait par rapport aux 4, c'est Moïse Kean. Parce que alors, c'est un formidable buteur et d'ailleurs, le PSG a eu raison d'aller le prendre quand on voit la saison de Mauro Icardi. Il n'empêche, autant statistiquement que même en termes de régularité dans les matchs, voilà, c'est pas forcément l'individualité forte du PSG en Ligue 1 cette saison. Évidemment, on pense à Kylian Mbappé avant tout. Donc, on a mis plutôt Moïse Kean de côté. On a aussi décidé de mettre Kevin Volland de côté, qui pour le coup présente les meilleures stats des 4. Mais formidable recrue, formidable attaquant qui forme un duo exceptionnel avec Wissam Ben Yedder. Mais on, voilà, c'est vrai qu'on a eu du mal à dégager une individualité du collectif monégasque qui semble être vraiment la force de cette équipe. Volland est un membre important parmi d'autres. Tandis que les deux hommes qui restent en jeu, que ce soit Burak Yılmaz ou que ce soit Lucas Paqueta, il y a quelque chose en plus, Jap, et je crois que tu veux défendre la candidature de l'attaquant du LOSC.
Oui, attaquant du LOSC, parce que pour moi, alors il y a plusieurs critères. Le premier, c'est évidemment son rapport entre qualité-prix. Burak Yılmaz, à l'inverse de Lucas Paqueta, il n'a rien coûté finalement, il est arrivé libre. Et son apport, alors évidemment, statistiquement, ce n'est pas tout à fait Kevin Volland, mais c'est quand même 10 buts. C'est aussi et surtout des buts importants, je pense, à des matchs contre Montpellier en décembre dernier. Je pense à une victoire à Nîmes aussi. Je pense à des matchs contre Monaco où il a été capital. Donc, c'est des buts importants. Et finalement, bah, ce ratio-là, un joueur qui ne vous coûte rien et qui vous rapporte autant sur le terrain en termes de statistiques, mais aussi en termes d'importance dans les matchs qui fait basculer, pour moi, c'est déjà un argument fort. Le deuxième argument, c'est le poids qu'il a dans le jeu. Burak Yılmaz, c'est un buteur. On le connaissait déjà comme un très, très grand buteur en Europe. On a aussi découvert qu'il était tout simplement capital dans le jeu de Lille parce que tant dans le jeu en pivot, tant comme point d'appui, dans le pressing aussi, il est tout simplement impressionnant pour un joueur de 35 ans. Et moi, j'ai le souvenir d'une phrase de Luis Campos qui l'a recruté, qui n'est plus au club aujourd'hui. Il disait, les joueurs, avant de savoir ce qu'ils valent, on se demande s'ils peuvent s'intégrer dans le puzzle. Burak Yılmaz est peut-être la pièce du puzzle qui manquait à Lille pour viser le titre et pour viser ce podium-là. Il l'apporte, il est tout simplement essentiel, je l'ai dit, pour le pressing et dans le jeu lillois. Le troisième aspect, c'est aussi son importance dans le projet. Au-delà du jeu, on a parlé de Bordeaux en début d'émission. Lille, finalement, son mode de fonctionnement financier, en tout cas, c'est aussi des fonds. Le problème, c'est que, enfin, le problème, c'est pas un problème, justement, la solution, c'est que ces fonds-là, bah, derrière, il y a un projet sportif, il y a quelque chose de cohérent. Et Burak Yılmaz, il montre que pour faire du dépôt-vente, comme beaucoup de clubs le font aujourd'hui, il faut aussi des joueurs d'expérience, il faut aussi des joueurs qui sont capables de mobiliser un vestiaire, qui sont des leaders finalement. Il suffit pas d'additionner des jeunes joueurs qui ont beaucoup de talent et qui pourront rapporter des millions à toutes les fenêtres de mercato estival. Burak Yılmaz, il a 35 ans, donc s'il est revendu, il ne rapportera pas grand-chose à Lille. Mais pour le projet, pour l'importance et pour le développement des joueurs qu'il y a autour de lui, il est tout simplement essentiel.
Alors gros coup de cœur aussi pour Burak Yılmaz cette saison. Moi, c'est vraiment le côté caractériel que j'aime beaucoup chez lui. C'est un guerrier, et c'est-à-dire que quand on parle de premier défenseur pour un attaquant, c'est souvent un peu une phrase facile. Là, pour le coup, regardez-le, vous verrez que ce n'est pas une phrase en l'air. C'est-à-dire que c'est un chien qui court après n'importe quel ballon, et qui en plus est décisif, et qui apporte toute sa grinta, à mes yeux, à une équipe lilloise qui, par le passé, était peut-être un peu trop gentille. Là, il y a un petit côté, voilà, c'est pas le vice, mais voilà, il y a de l'expérience et mort de faim. Voilà. Et ça, je suis complètement d'accord avec toi. Burak Yılmaz, c'est une vraie surprise. Je mettrai quand même un petit bémol sur sa saison. C'est évidemment son absence au début de l'année 2021, près de 2 mois. D'ailleurs, c'est le moment où Lille a commencé à tout sauter un petit peu. Il a été parfaitement secondé par David avant que David se blesse également. Donc voilà, sur une continuité d'une saison aussi particulière, c'est toujours compliqué. C'est une des raisons qui fait que moi, j'ai opté pour Lucas Paqueta. Parce que Lucas Paqueta est un petit peu comme Burak Yılmaz, mais encore plus dans le jeu, il y a eu une prise de contrôle immédiate. Il faut se souvenir du contexte dans lequel il arrive, Paqueta. C'est après le Final 8. On pense que le milieu Guimaraes, Kakré, Aouar va marcher sur la Ligue 1 comme il a marché sur Manchester City et sur la Juventus Turin. Donc, mettre un autre milieu de terrain là-dedans avec une propension technique qui, en plus, ne fait pas beaucoup de stats et est un petit peu en échec du côté de l'AC Milan, on se dit, bon, on ne voit pas trop l'intérêt. En fait, dès ses premiers matchs, il tord le cou au cliché. On l'attendait numéro 10, un petit peu soyeux. En fait, c'est un guerrier magnifique, magnifique dans le pressing, qui vraiment enchaîne les courses de manière très importante. Et pour moi, son match symbole, c'est le match aller face à Lille, déjà, où Lyon est assiégé, mais lui, il brille par son bleu de chauffe et par sa capacité à répéter les efforts et à soulager une défense lyonnaise. Donc voilà, moi, ce côté prise de contrôle immédiate, quand il est arrivé, son premier match, on a compris qu'en fait, tous les ballons allaient passer par lui désormais et que le patron du jeu lyonnais, aujourd'hui, il y a eu Memphis Depay à un moment, mais en cette fin d'année, le vrai patron, c'est évidemment Lucas Paqueta. Ce que j'ai beaucoup aimé, et c'est le deuxième point, c'est aussi cette influence statistique grandissante. C'est-à-dire que quand il est arrivé, on l'a dit, on l'imaginait plus en numéro 10, un petit peu inefficace. De plus en plus, et notamment depuis le début de l'année 2021, il marque des buts très importants qui font beaucoup de bien à Lyon. Il a été replacé numéro 10 récemment. C'est aussi pour le rapprocher du but et je pense que c'est là qu'il va s'exprimer au mieux. Et enfin, et c'est peut-être pour ça que je l'ai plus choisi que Burak Yılmaz, effectivement, Burak Yılmaz, tu l'as dit, a une importance dans le projet lillois. Moi, ce que j'aime beaucoup avec Lucas Paqueta, c'est que c'est le coup d'avance de Juninho là-dessus. On sait que cet été, Lyon est amené à perdre Memphis Depay, qui va partir, et probablement Oussem Aouar, qui devrait être vendu à un grand club européen. Souvent, dans ces moments-là, on met du temps à trouver qui va être le symbole du projet lyonnais. Là, l'année prochaine, la question ne se pose même pas. On sait autour de qui on va reconstruire. On sait qui sera l'homme clé de Lyon la saison prochaine. C'est évidemment Paqueta. Donc voilà, pour toutes ces raisons et pour sa régularité aussi, parce que peut-être que c'est lui le joueur le plus régulier de Lyon cette saison, même devant Memphis Depay, j'en fais la meilleure recrue de Ligue 1. Et j'ai une question pour toi, Julien, qui, à mon avis, peut trancher le reste. Est-ce que... On parle de la meilleure recrue. Dans les semaines qui viennent, on parlera probablement du titre de meilleur joueur de Ligue 1. Est-ce que Burak Yılmaz peut être dans le quatuor retenu pour les 4 meilleurs joueurs de Ligue 1? À mes yeux, non, parce que j'imagine qu'un Mike Maignan, par exemple, semble légèrement devant du côté de Lille. Est-ce que Lucas Paqueta peut être dans ce quatuor-là? À mes yeux, oui.
Alors, je suis d'accord avec toi, mais ça traduit aussi autre chose. Ça traduit l'importance du collectif à Lille et l'importance des individualités à Lyon. C'est aussi ça qui fait la différence. Si Lille est titré, je ne suis pas sûr que Yılmaz serait moins important que Paqueta si Lyon est titré. Après, je suis d'accord avec toi, il y a aussi le côté clinquant et il y a le fait que Paqueta, à Lyon, finalement, il a restauré une fibre brésilienne qui nous rappelle de bons souvenirs. Donc, il y a quelque chose de plus sentimental là-dessus. Yılmaz ne fait pas partie des tout meilleurs joueurs de Ligue 1 parce que évidemment il a 35 ans et que il est plus proche de la fin de sa carrière que du début évidemment et qu'il y a beaucoup de talent à Lille mais aussi ailleurs. En revanche, je pense que l'impact de Yılmaz, notamment sur le plan psychologique, sur le plan mental, encore plus que sur le terrain, est beaucoup plus grand que celui de Paqueta à Lyon.
Voilà, débattez, on n'arrivera pas à se départager, mais dites-nous en commentaire de cette vidéo ou sur les plateformes d'écoute qui, selon vous, est la meilleure recrue de Ligue 1. Rappel donc du match dimanche, très important pour le titre, Lille-Lyon, Lyon-Lille, en revanche, c'est au Groupama Stadium. Voilà pour ce FC Stream Team. Julien, comme promis, tu n'as pas terminé dans le bac à gravier, tu es resté avec nous jusqu'au bout de cette émission. On te remercie. On va retrouver dès la semaine prochaine, je crois, Martin Mosny qui sera de retour dans ce FC Stream Team. Nous, on va vous saluer. On va vous rappeler que sur Eurosport, ce week-end, il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à suivre. Donc, venez vous connecter sur le site et sur les applications d'Eurosport. Et on vous dit rendez-vous la semaine prochaine pour le FC Stream Team. Même jour, même heure.
Salut à tous.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.